Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pendant ces trois semaines de l'Avent, Radio Présence vous propose de parcourir les lieux que la Sainte Famille a elle-même parcourus autour de la Nativité. Nazareth, Aïn Karem, Bethléem. Nous visiterons pas à pas ces endroits cités dans l'Évangile à propos de l'Annonciation, la Visitation, la Nativité bien sûr, les Saints Innocents et la fuite en Égypte. Aujourd'hui, Nazareth et Aïn Karem. Et pour ce pèlerinage sur les lieux saints de la Nativité, nous sommes avec le frère Dominique Marie Cabaret. Bonjour frère.
Bonjour.
Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous avez vécu 10 ans à Jérusalem, vous avez été chargé du cours de topographie et d'histoire du Proche-Orient ancien à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Merci de votre venue aujourd'hui à Radio Présence.
Il n'y a pas de quoi, le plaisir est partagé.
C'est gentil. Alors on part tout de suite à Nazareth. Premier arrêt, la basilique de la Nativité, comme son nom ne l'indique pas, elle commémore d'abord l'Annonciation et pourtant c'est d'abord le lieu de vénération d'un tombeau.
Vous avez dit la basilique de la Nativité.
Oui.
Non, c'est la basilique de l'Annonciation.
Ah bah voilà, donc en fait c'est une erreur de ma part. Basilique de l'Annonciation.
La Nativité c'est à Bethléem.
Évidemment.
Et nous sommes à Nazareth.
Voilà.
Mais ne vous inquiétez pas, la confusion est classique.
Ah.
Voilà, donc.
Donc c'est d'abord le lieu de vénération d'un tombeau, c'est ça?
Non, alors oui, enfin, non, d'une grotte ou donc.
Une grotte.
Enfin, d'une grotte, oui. Ou c'est compliqué, c'est-à-dire que l'habitat local, comme à beaucoup d'endroits en Terre Sainte, est en partie troglodyte et en partie construction classique. Hein. Et donc, pour différentes raisons, c'est que d'abord, il y a des grottes assez facilement, et ensuite, parce que ça permet aussi de garder le froid pendant l'été et de garder le chaud pendant l'hiver. Donc, il y a des intérêts. Donc, ensuite, il est un fait qu'aujourd'hui, la basilique de l'Annonciation, donc à Nazareth, est construite sur le flanc d'un endroit qui est une grotte et où, selon la tradition, eh bien, l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie. Et donc, où il y a eu la parole de la Vierge Marie qui est ce fiat. Voilà. Mm. Et donc, aujourd'hui, c'est la principale église donc de Nazareth, qui est d'ailleurs assez contemporaine, puisque donc, elle a été construite par les franciscains, reconstruite par les franciscains ou agrandie par les franciscains donc, pendant le pontificat de Paul VI. Et donc, ça signifie qu'en fait, on a une église donc, bien classique de ces époques-là, que certains aiment, que certains aiment moins, donc d'un style... Voilà, avec deux niveaux, et donc avec aussi ce principe que donc la coupole principale eh bien, est comme un phare, au sens avec, pas phare breton, mais le phare au sens, pas la nourriture, mais le phare qui éclaire le monde, la lumière du monde, avec, voilà, et donc à partir de cet endroit où, donc, finalement, l'histoire de l'incarnation a commencé. Mmh. Voilà, mais c'est compliqué parce que donc aujourd'hui cette église est au milieu d'une grande ville, ça paye pas trop de mine et en fait c'est assez déroutant par rapport même à ce qui se passait à l'époque de Jésus puisque Nazareth était un petit village comme les fouilles archéologiques le montrent avec quelques centaines de mètres de côté. Et en fait, un petit village qui n'était pas très loin d'une autre grande ville qui aujourd'hui a complètement disparu ou presque, où il y a des sites archéologiques, qui est la ville de Séphoris, et qui était la capitale de la Galilée à l'époque. Et donc là, on comprend mieux d'ailleurs ces interrogations, notamment de Nathanaël ou d'autres. Qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de Nazareth ?
C'est ça.
Et autrement dit, qu'est-ce que c'est un trou paumé
donc, une qu'est-ce toute que c'est petite bourgade. Hein,
voilà, ouais. Une petite bourgade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment, voilà. Et donc, avec le fait que, donc, en effet, Jésus n'était pas né à Nazareth, donc, et qu'il est issu de la tribu de Juda, mais à Nazareth, il y avait donc sans doute, il y a des bonnes raisons de le penser, je n'entre pas dans le détail, des gens qui justement étaient issus de la tribu de Juda et qui avaient fait souche donc dans ce village. Et donc, en fait, c'est là qu'il y avait donc la maison de la Vierge Marie. Mais selon la tradition, il y a une certaine tradition qui dit que la Vierge Marie était originaire de Séphoris, hein, donc cette grande capitale. Donc, en fait, c'était la capitale de la Galilée avant que Tibériade soit fondée par Hérode Antipas. Et donc, en fait, c'était une ville, les vestiges de Séphoris montrent que c'était une grande ville. Et donc, d'ailleurs, Jésus, dans sa vie cachée, assez nécessairement fréquenté cette ville, même s'il y avait la question aussi de pureté légale, puisque donc cette ville, on le sait aussi, était habitée par des gens qui n'étaient pas forcément des juifs donc très observants, mais il y en avait forcément dans la ville aussi. Donc voilà, donc en fait cette petite ville dans laquelle il y a donc aujourd'hui cette grande église, mais aujourd'hui c'est une grande ville avec des embouteillages monstrueux et qui donc des fois donc c'est un peu difficile de se faire une idée précise. Donc des sites de l'Antiquité.
Ouais. Petite question, puisque vous parlez, frère Dominique-Marie Cabaret, de Séphoris, cette grosse bourgade qui a disparu aujourd'hui et qui était à côté de Nazareth. Puisque c'était la capitale de la Galilée, pourquoi le recensement n'a pas eu lieu là ?
Alors le recensement, c'est-à-dire que le recensement, le principe c'est que pour se faire recenser, on allait dans la capitale de sa tribu, si je peux parler comme ça. Et donc, à partir du moment où la Sainte Famille, où Saint Joseph et la Vierge Marie étaient issus de la tribu de Juda, eh bien, il fallait aller dans la capitale de Juda, qui était Bethléem. Oui. D'où le fait qu'on devait se déplacer. Mm. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la nativité. Mm-hmm. Mais donc, en fait, selon la tradition, il y a un endroit qui a toujours été vénéré. Et donc aujourd'hui, l'église donc, contemporaine dont je vous ai parlé est à la verticale d'églises antérieures, au moins deux églises antérieures, et avec des traces de vénération qui sont tout à fait antiques. Donc a priori, il n'y a aucune raison de douter que c'est le lieu traditionnel que les chrétiens ont toujours vénéré.
Donc ça a été vénéré par les chrétiens. Est-ce que les croisés sont passés par là,
byzantins? Oui, les croisés ont aussi construit leur église. Et ils n'ont en fait pas tout à fait eu le temps de la construire. Il y a eu plusieurs églises. Ça serait trop long, à mon avis, d'entrer dans le détail de toute la superposition des églises. Mais on sait même qu'il y avait une très, très belle église qui était en construction au moment où Saladin a fini par reprendre la Terre Sainte aux croisés, donc aux alentours de 1187. Puisqu'on a retrouvé des très très beaux chapiteaux historiés qui étaient sur le point d'être terminés et qui n'avaient pas été encore mis en place.
Ah oui. Hein.
Et des très beaux chapiteaux,
bien sculptés.
Si on regarde bien sur Internet, si on essaye de trouver sur Internet, on les trouve. Ils sont dans des musées, donc, notamment aussi... à Jérusalem, mais il y a aussi, on peut les voir un peu, les franciscains, il y a des copies aussi qui ont été à droite et à gauche, mais toujours, c'est des très beaux chapiteaux historiés qui, donc, dans l'histoire de l'art, sont très intéressants et qui montrent d'ailleurs qu'ils ont été cachés pour éviter d'être saccagés. Donc, ce qui montre d'ailleurs que ceux qui les ont cachés avaient sans doute l'espoir de pouvoir les ressortir
et de les mettre en place
plus tard.
Et donc, cette église qui a été construite partiellement par les croisés, est-ce qu'elle est au même endroit que celle qui a été construite plus tard par les franciscains, ou est-ce que ce sont deux sites
distincts ? c'est comme des poupées russes.
Ah oui, c'est ça.
Donc en fait, la première était petite, donc ça signifie que l'endroit vénéré était sur le côté. Et à l'époque des croisés, l'endroit vénéré, comme le verbe s'est fait chair, pour le coup, était dans la nef latérale. Et aujourd'hui, alors c'est justement le bon côté de la basilique contemporaine, c'est qu'on a voulu laisser des traces à la manière de l'archéologie contemporaine, on a voulu laisser des traces des églises antérieures. Donc dans la crypte, enfin ou dans la crypte, dans l'église inférieure de la basilique contemporaine, il y a donc l'endroit où on vénère cette donc l'Annonciation. Et à côté, vous avez la trace et les murs, les vestiges des murs des églises antérieures.
D'accord.
Donc en fait, on entre dans un grand endroit où on peut voir des vestiges. Donc sur la gauche, quand on entre, il y a sur le long du mur, il y a les vestiges de l'église croisée. Et quand on accède au plus proche, au plus près de l'endroit où il y a la grotte, eh bien, il y a les vestiges de l'église antérieure. Voilà. Et sachant qu'en plus, donc, il y a eu des destructions après les croisades et que la reconstruction de l'église des franciscains n'était pas aussi grande que l'église croisée. Hein. Mmh. D'où le fait qu'aujourd'hui, l'église contemporaine a été reconstruite justement à l'époque contemporaine parce qu'elle était plus petite. Elle était trop petite. Celle qui subsistait était trop petite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui en fait la plus grande église, je crois, de Terre Sainte tenue par donc, les Latins. Donc c'est le couvent franciscain, d'où ouais. Le fait qu'il y a très souvent donc, des grandes messes, des ordinations qui sont dans cette église, parce que c'est celle
qui contient le plus de monde.
Qui concerne, voilà, qui a la capacité d'accueillir ouais, le ça. Plus de monde.
Est-ce qu'on a quelques traces? Vous avez dit qu'on pouvait voir l'église antérieure. Qu'est-ce qu'on en sait de cette église?
Ah ben, on en sait ce qui est les vestiges, c'est-à-dire que il y a des traces de vénération chrétienne.
Et c'est quelle époque ça?
Ah ben, dès l'époque byzantine.
Oui, c'est ça.
Donc, ça remonte aussi loin qu'on peut aller dans la vénération chrétienne. Hein, de même qu'à Capharnaüm, on retrouve des traces de vénération byzantine d'un endroit, et donc, ben, évidemment, on n'a pas d'autre manière d'aller plus loin sur le plan de l'archéologie. Mais après, donc les sources, pour le coup, il n'y a pas de lieu concurrent. Hein, et puis, c'est resté le lieu toujours vénéré. Donc après, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison
de
mettre en doute le fait que ça a toujours été le lieu vénéré.
D'accord. Ouais,
après, vous voyez bien qu'au plan des plus sceptiques, oui, ce n'est pas parce que c'est le lieu toujours vénéré qu'on est à la certitude que c'est le vrai lieu, sauf qu'il n'y a pas d'autre lieu qui a été vénéré.
Voilà. Là, au moins.
Donc, il y a quand même un facteur d'indice de convergence qui vont dans cette direction.
Et puis, il y a un évêque qui s'appelait Arculf qui a fait un pèlerinage en Terre Sainte dans la deuxième partie du 7e siècle. Et lui, il a écrit tout ce qu'il a vu.
Oui.
Et de quoi il témoigne précisément?
Alors oui, alors là, on entre dans une autre question un tout petit peu plus complexe, c'est que cet évêque, hein,
un évêque franc,
voilà, donc on ne sait pas bien exactement d'où, enfin il y a des hypothèses, mais enfin bon, peu importe, sur le chemin du retour il est allé jusqu'en Irlande, on ne sait pas, enfin sans doute un naufrage, bon bref, et il a raconté en effet son parcours, sa visite de la Terre Sainte, et donc c'est intéressant parce que donc il décrit donc la ville de Nazareth. Et là, justement, il dit quelque chose qui oblige à penser, parce qu'il parle de deux églises qui sont donc importantes à Nazareth. Il dit même de très grandes églises, ce qu'on conçoit au sens où, justement, l'église de l'Annonciation était déjà relativement grande à l'époque. Et pour la deuxième, donc la première, il est évident que c'est celle de l'Annonciation. Et la deuxième, en fait, il dit que c'est l'endroit, où il emploie le mot latin nutritio, c'est l'endroit donc où Jésus aurait été élevé par la Sainte Famille. Et là, il est un fait que, pour le coup, puisque le village de Nazareth était assez petit, ben, on a un doute sur l'endroit où était cette deuxième église. Et a priori, on n'a aucune raison de mettre en doute ce témoignage, même s'il date donc du
7e siècle.
7e siècle. Mais donc, ça témoigne en tout cas qu'au 7e siècle, il y avait deux églises. Mm-hmm. Évidemment, là, il y a des discussions entre spécialistes sur l'emplacement donc, de cette deuxième église. Il y en a un certain nombre qui disent qu'elle est placée à l'autre bout du village où il y a une source. qui est appelée la source de Madame Marie, enfin, donc dans la tradition, qui n'est pas loin d'une église orthodoxe, où les orthodoxes grecs vénèrent l'Annonciation. Hein, donc pour eux, c'est pas l'emplacement
eh oui, c'est
de
pas le lieu de la
voilà, c'est pas
basilique
l'emplacement
actuelle.
latin, mais quoi qu'il en soit, donc cette église orthodoxe serait l'emplacement. Il y a en effet une source, parce que donc dans les sources, dans ce que raconte aussi Arcuf, notre évêque là, il part d'une source où, dans lequel donc tous les habitants venaient y puiser à côté de cette deuxième église. De la nutritio, donc de l'emplacement où Jésus donc aurait
Aurait
été
vécu avec
élevé,
ses
aurait
parents.
reçu le sein de la Vierge Marie. Mais donc oui, voilà, donc il y a des arguments hein, qui vont dans ce sens-là. Ceci dit, les vestiges archéologiques de cet emplacement-là, de l'époque byzantine, oui, mais enfin, le témoignage de l'évêque gaulois parle aussi de deux voûtes. Donc, ce n'est pas très précis. Et
il n'y a pas
y
d'autres
a,
témoignages qui
non, y
viennent
a,
le
si, y a
confirmer
des
ou
témoignages, mais ils
infirmer.
sont plus tardifs. Et ils se fondent en particulier sur, justement, le témoignage de l'évêque
De
gaulois.
cet évêque Arculf.
Voilà. Et donc, en fait, tout ça, c'est pas si... Il y a quand même une incertitude. Et puis, on rajoute aussi au fait que donc, la Terre Sainte est un lieu où il y a de nombreux tremblements de terre
Ah oui.
et que les tremblements de terre font évoluer les sources. Donc ça veut dire qu'en fait la source actuelle, qui est donc attestée depuis donc plusieurs siècles sans aucun contexte, eh bien en fait elle existait peut-être déjà à l'époque de Jésus, c'est clair, mais il y avait peut-être d'autres sources qui existaient dans la ville, dans le village à l'époque de Jésus, qui ont été taries en vertu à cause de tremblements de terre. Et donc c'est un des arguments qui peut être utilisé justement pour authentifier un autre lieu. Qui est très intéressant sur le plan archéologique, qui est donc tous les ce lieu qui est au centre de la propriété de ce qu'on appelle des Dames de Nazareth, qui est une congrégation française du 19e siècle, qui est allée fonder là-bas un couvent, voilà, à la demande, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui a acheté un terrain, pas très loin de la basilique de l'Annonciation, pour le coup, donc on va dire
Donc
100 mètres
dans le
de la basilique
centre
de l'Annonciation, donc
de
dans le
Nazareth.
centre ou sur le côté de la ville. Et quand ils l'ont acheté, ce terrain, dans la tradition locale, eh bien, on leur a vendu très cher, sous prétexte que c'était le terrain du juste.
Ah.
Et donc elles ne savaient pas très bien, enfin, il y avait une tradition qui disait que ce terrain était important.
Et le juste, ce serait qui alors?
Alors, attendez,
Ah.
attendez, il faut aller
Maintenez
par
en
étapes
haleine.
parce qu'il faut
Oui.
comprendre justement la manière dont ça s'est fait. Donc, elles ont construit leur couvent, en laissant une cour intérieure. Et un jour, un de leurs employés, en fait, en travaillant dans le jardin, eh bien, est tombé dans un trou. Et dans le trou, il a trouvé donc des vestiges d'une voûte byzantine, enfin d'une voûte antique qui s'est avérée byzantine après. Et de fil en aiguille, donc les sœurs, donc c'était le début de l'archéologie, à la fin du 19e siècle, ont dégagé tout ça et ont fini par retrouver donc un lieu où il y avait la sépulture d'un évêque, donc un lieu important, avec des voûtes, avec des vestiges d'une église, avec les vestiges d'une grotte. Et avec les vestiges donc de ce qui s'est avéré plus tardivement, donc aujourd'hui attesté par des archéologues, d'une maison du 1er siècle, donc de l'époque de Jésus, et en dessous, un tombeau, qui a la particularité d'avoir une pierre ronde. Donc en plus, un tombeau luxueux, entre guillemets, parce que donc il faut bien comprendre que ceux qui... avait la capacité de creuser des tombeaux, c'était pas n'importe qui, et que très souvent à l'époque on était enterré comme aujourd'hui d'ailleurs, enfin pas forcément avec des cercueils, mais en pleine terre. Et
Et on voit bien pour le tombeau de Jésus, il était offert par Joseph d'Arimathie.
il
C'est
était
ça.
offert par Joseph d'Arimathie. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, ce tombeau a une pierre ronde, et donc la pierre ronde permet d'ailleurs de se faire une idée. Du tombeau de Jésus, une pierre ronde alors qui est poussée, et donc et quand les sœurs donc alors
Tombe
c'est
sur
un
cette
dossier
pierre
archéologique un
ronde.
peu compliqué
Ouais.
parce qu'en fait les sœurs n'ont pas appliqué des méthodes archéologiques qui auraient été bonnes bien qui auraient été ça aurait été bien de faire ça d'une manière très rigoureuse, et donc on n'a pas de carnet de fouilles, et
Ah.
les vestiges retrouvés ont été un peu éparpillé, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le dossier archéologique n'est pas complet. Et on est donc obligé aussi de se référer à ce qu'ont dit les sœurs. Et les sœurs ont trouvé des vestiges de mosaïques, ont retrouvé des vestiges qui vont dans le sens où c'était un beau lieu, un lieu vénéré, et qui était vénéré non seulement à l'époque byzantine, parce qu'il y a des vestiges byzantins, mais aussi à l'époque des croisés.
Des croisés.
Avec le fait que lorsqu'elles ont ouvert la pierre qui couvrait le tombeau, il y a une odeur d'encens, donc selon leur dire, qui s'est dégagée, et qu'il y avait dans le tombeau des ex-voto, croisés, donc notamment des éperons, etc., qui montrent qu'il y avait une vénération. Et puis, il y a des escaliers qui sont encore aujourd'hui visibles, qui montrent qu'on descendait donc en dessous d'une voûte. Voilà. Et qui plus est, après, il y a des vestiges aussi d'un lieu où on venait puiser l'eau. Alors, il y en a qui peuvent dire que c'était des vestiges d'une citerne. Mais ça vous, il y a de l'eau qui est pas loin parce que donc c'est un lieu humide, voilà. Et donc en fait c'est quand même un lieu important qui a été vénéré, et donc avec le fait que dans la tradition locale c'était le tombeau du juste. Enfin, c'était le. Donc qu'est-ce que c'est que ce juste?
Alors, je vous propose justement de répondre à cette question juste après cette pause musicale, frère Dominique Marie Cabaret. Vous nous direz justement qui était ce juste. Nous écoutons le début de la cantate pour la visitation de Marie de Jean-Sébastien Bach.
Oh,
Vivante Église, Isabelle Duché.
Les lieux saints de la naissance du Christ, ce sont ceux que nous vous proposons de parcourir pendant ce temps de l'Avent. Nous sommes avec le frère Dominique Marie Cabaret, dominicain et archéologue. Vous nous avez emmenés à Nazareth et nous y sommes encore puisque vous nous parliez juste avant cette pause musicale du terrain du juste. Vous nous avez dit qu'il y avait un tombeau, une pierre ronde. Et il y avait aussi un escalier qui descendait. Il y a des ex-voto qui ont été déposés par des croisés. Et puis une source. Finalement, de qui s'agit-il ? Qui est enterré dans ce tombeau ?
Eh bien, oui, c'est toute la question. Alors, quand on visite les lieux, les sœurs sont plutôt très prudentes sur le sujet. Alors, oui, elles sont très prudentes parce que donc, les archéologues leur ont dit d'être très prudents. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant de toucher du doigt la différence quand c'est une sœur occidentale. Parce que ce sont des sœurs françaises hein, à l'origine, mm-hmm. hein, mais bon, oui, même s'il n'y en a plus beaucoup de françaises, il y a quand même des sœurs occidentales. Et quand donc, les sœurs occidentales parlent, elles ont le rationalisme occidental, ce qui n'est pas du tout mauvais en soi. Mais quand il y a une sœur orientale, donc, notamment, moi j'ai déjà entendu une sœur libanaise nous faire visiter les lieux, je trouve ça intéressant parce qu'elles sont dans la mentalité de leur région, où la tradition orale a quelque chose d'important. Et on ne peut pas faire fi de la tradition orale. Mmh. Et donc, le fait que les sœurs de Nazareth aient eu du mal, les dames de Nazareth, un peu comme on les appelle, enfin, qu'il faudrait les appeler, ont eu du mal à acheter le terrain, ou on l'ont acheté un peu malgré la population, l'avis de la population, ou en tout cas l'ont acheté cher, alors qu'il n'y avait rien de découvert, montre qu'il y avait une tradition locale qui continuait et... Avec, c'est un tombeau, c'est un emplacement qui n'est pas anodin, avec justement cet emplacement, cette tombe, finalement, du juste. Et donc, ça veut dire qu'il y a une tradition d'injuste. Alors, quel est-elle ce juste ? C'est facile, évidemment, pour nous chrétiens de dire que c'est Joseph. Enfin bon, ceci dit, c'est un fait que Joseph a été, est injuste.
Hein. Oui.
Au sens où on l'entend dans le langage chrétien. Et ne serait-ce que parce que, comme le montrent les évangiles, il a accepté de prendre la Vierge Marie alors qu'elle était enceinte. Alors moi, on pourrait imaginer d'une manière contemporaine qu'il voulait la répudier parce que qui est le père de l'enfant, au sens où elle m'a peut-être trompé. Bon, j'espère que... Enfin, pour moi, c'est impensable que Saint Joseph ait été dans cette optique, au sens où il y avait un côté extraordinaire, mais que la Vierge Marie a dû lui dire. Et je pense qu'il n'a pas pu douter de la sincérité de la Vierge Marie, qu'il est entré. Et donc, qui suis-je, moi, pour épouser une femme dont l'enfant est de Dieu ? Et donc, je ne peux pas. Et d'où le fait qu'il y ait
humilité,
d'où le fait qu'il y ait une intervention. Je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais je pense que c'est le sens de l'intervention de son songe en disant non, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse, parce que justement, même s'il y a quelque chose d'exceptionnel, tu es appelé justement à jouer, à être son mari. Et donc à assumer l'enfant qui vient de Dieu. Et donc il y a évidemment une justice là-dedans. Et après, donc on pourrait dire oui, mais enfin bon, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un beau tombeau. Donc c'est un tombeau qui montre qu'on a de l'argent. Un tombeau rond avec une pierre ronde, a priori, hein, c'est vraiment de l'époque hérodienne. C'est vraiment de l'époque de Jésus. Et alors, l'argument est juste, ça va peut-être à l'encontre de la conception de certains, comme quoi le charpentier qui était Joseph était quelqu'un qui n'était pas forcément riche.
Oui, c'est vrai, on l'imagine
mais
pas.
Mais en fait, quand on parle de charpentier, c'est plus celui qui a une maîtrise d'ouvrage sur un bâtiment. Et donc, il ne faut pas le réduire à uniquement... Donc, c'est plus... Il y a une dimension d'ingénieur par derrière. Donc, ça veut dire que ce n'était pas forcément quelqu'un qui était absolument donc misérable à faire des travaux. Voilà.
Oui, il n'y avait pas seulement un métier manuel, en fait, dans ce que
Il y avait un métier de conception.
Il y avait vraiment la conception aussi.
Ouais. Et puis, de toute façon, pour faire tenir une charpente, alors, très souvent, il peut y avoir des toits plats, mais enfin, il n'y avait pas que des toits plats à l'époque. Donc, en fait, oui, c'était un artisan, et ce n'était pas forcément un artisan qui était un... On peut y voir quelque chose de péjoratif aujourd'hui, mais je crois qu'il ne faut pas être dans cette mentalité. Alors, je ne veux pas dire absolument que ce tombeau est celui de Saint-Joseph. Mmh. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceci dit, le fait qu'il y ait une tradition qui se soit perpétuée jusqu'au XIXe siècle, une tradition orale, ça interroge. Et qui plus est, donc là, pour le coup, il y a une maison au-dessus. Alors, on touche là un autre point compliqué, c'est que les plus sceptiques vont dire oui, mais dans la loi de pureté juive, on ne construit pas de maison à la verticale des tombeaux, parce que les tombeaux rendent impurs ceux qui y marchent dessus. Donc, donc en effet, c'est un argument assez fort, sauf que je peux vous dire que donc, des archéologues, évidemment, israéliens, juifs sont venus et connaissent bien le lieu, hein, parce que, donc, de toute façon, Nazareth est en Israël, et que l'une d'elles, avec l'argument que je viens de présenter, a répondu « Oui, non, mais pour nous, ça ne suffit pas, parce que, précisément, il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas construire de maison sur, mais s'il y a cette loi, c'est que ça montre que ce n'était pas toujours observé. »
Ah.
Et ne serait-ce que parce que, donc aussi, le tombeau de David, vous voyez, par exemple, il est parmi nous, comme dit Saint-Pierre, donc parmi nous, dans la ville. Et donc, c'est un fait qu'il y avait une tradition et que la logique, c'était de mettre les tombeaux hors de la ville.
Mais ça
ensuite,
s'était quand même fait.
Est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était une exception ou pas? En quoi qu'il en soit, il y a quand même une maison qui, a priori, les archéologues ont quand même vu des traces du 1er siècle et quelque chose qui était sur le tombeau. Alors, est-ce que la maison a été abandonnée, le tombeau construit après, etc., etc. Bon, moi, c'est des sujets très délicats, mais quoi qu'il en soit, donc, aussi, si c'est le tombeau d'un juste, ça peut être aussi quelqu'un, est-ce que le tombeau peut être vénéré ou pas? Bon, bref, voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est des histoires assez complexes, et donc, en tout cas, sur le témoignage de l'évêque
Arculf, du 7e siècle. Oui.
Voilà, en effet, ça pose des questions et qui quand même sont appuyées par des vestiges archéologiques, parce que donc pour finir sur les Dames de Nazareth, il y a effectivement des vestiges byzantins à cet endroit-là, donc aussi vieux que ceux de la basilique de l'Annonciation, et qui plus est, donc j'ai juste dit ça rapidement tout à l'heure, il y a donc a priori, il était retrouvé donc dans un endroit un peu à part, mais pas très loin du tombeau avec la pierre ronde, en fait la dépouille d'un homme qui était enterré assis. Et donc, alors, il y en a qui disent même qu'il avait un anneau. Et donc, dans l'Antiquité, ceux qui étaient enterrés assis, c'était les évêques.
D'accord.
Donc, vous voyez, donc ça veut dire que le lieu était important.
Dans une posture d'enseignement, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même la marque. Alors, les plus sceptiques vont dire, oui, mais on n'a pas de vestiges archéologiques, en effet, parce que les sœurs ont tout défait. Enfin, c'était une époque où l'archéologie n'était encore que balbutiante. Mais ceci dit, la seule chose qu'on ait, c'est les témoignages des sœurs. Et donc, on est bien aussi... il faut quand même partir du principe que les sœurs ne nous ont pas forcément raconté n'importe quoi. Enfin, il y avait un jésuite qui les accompagnait.
D'accord, dans ses recherches.
Voilà, voilà. Et donc, le fait qu'il y ait des sépultures, a priori, de quelqu'un dont on peut penser que c'était un évêque, montre que c'était vénéré comme un lieu important.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Allez, il faut qu'on parte pour Aïn Karem quand même. Il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission. À Aïn Karem, il y a une église qui est aussi tenue par les franciscains. Elle commémore la visitation.
Oui, voilà. Donc là, c'est le lieu où donc, on avance en effet dans la gestation de l'enfant Jésus, dans le sein de la Vierge Marie. Oui, bien comprendre que c'est sûr que le départ vers sa cousine... pouvait être aussi des choses très pratiques, hein, parce que une jeune femme enceinte sans qu'on ait vraiment compris la raison du fait qu'elle est enceinte. Alors même si ça pouvait être caché par le fait partons du principe qu'il fallait mieux être discret.
Donc c'est pour ça qu'elle serait partie chez sa cousine aussi.
Oui, parce que c'est aussi toute la dimension du fiat de la Vierge Marie. C'est qu'une jeune femme enceinte à l'époque, ça valait la lapidation.
Oui, c'est ça. Hein? C'était
une situation qui n'était pas du tout facile. Ouais. Donc il y a un bel abandon. Hein? Enfin, vous me direz, si c'est...
Un abandon de sa réputation.
Voilà, un abandon de sa réputation. Au fait, un acte de confiance. Ça va être compliqué à justifier, parce que c'est aussi la même chose par rapport à Saint-Joseph. Comment va-t-il réagir? Je suis promise à lui, mais comment va-t-il réagir? Je vais lui dire que... Voilà. Et donc, on ne sait pas comment réagissent les hommes. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, le fait est qu'elle puisse aller loin, parce que Ein Carême est à côté de Jérusalem, dans les monts de Judée, dans la forêt de Judée.
Ça représente quoi comme distance entre
plusieurs jours de marche.
Ein Carême et Nazareth, plusieurs jours de marche.
Ah oui, plusieurs jours de marche. Donc, ça veut dire qu'on se met loin et voilà. Et donc là, il y a un lieu, mais alors ce lieu est vénéré aujourd'hui avec une église qui est tenue par les franciscains, mais... On n'en a pas forcément des traces très précises, avant l'époque croisée, même s'il y a, alors il y a une source, etc., etc. Moi, je ne mets pas en doute l'emplacement, mais il faut bien qu'il y en ait un d'abord. Voilà, l'endroit est charmant. Donc, parce que c'est pas du côté du désert, c'est les monts de Judée, mais c'est c'est du côté où il y a beaucoup de végétation, il y a une source.
Il y a une source aussi, oui.
Voilà, il y a une source.
Et appelé la source de Marie, c'est ça?
Oui, voilà. Et donc, en fait, c'est quelque chose aussi, c'est un très bel endroit. Et donc, où d'ailleurs, les franciscains ont un monastère un peu plus loin aussi, là où il y a une église dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Parce que donc justement c'était les parents de Saint-Jean-Baptiste qui a priori habitaient là. Voilà, donc en fait c'est un beau lieu et d'ailleurs c'est un emplacement où justement un peu à la manière de ce qui se passe sur le Mont des Oliviers avec l'église de le Léonat où il y a donc sur les murs les Notre Père dans toutes les langues. Et là, donc, à la Visitation, il y a moins, il y en a moins, mais il y a le Magnificat qui est justement un peu dans toutes les langues qui sont inscrites sur
le mur. Et qui est donc
en
mosaïque sur le mur.
Oui, ou en carreau. Donc
ça, c'est très beau.
Pas forcément des mosaïques, voilà. Voilà. Et donc, en fait, il y a un emplacement qui est vénéré comme étant le lieu de la rencontre entre donc ce belle rencontre qui donc de Saint d'Élisabeth qui va exulter de joie et puis la Vierge Marie qui va chanter après l'enfant qui tressaille dans le sein d'Élisabeth la salutation à la Vierge Marie et puis après l'exultation de joie dans le Magnificat donc qui sont des très belles pages de l'Évangile que nous vénérons régulièrement et qui nous habite par toute la liturgie qu'on peut tourner autour avec ces textes fondamentaux.
Oui, raconté notamment par Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56, c'est ce récit de la Visitation.
Cette
rencontre entre les deux cousines.
Voilà,
Marie et Élisabeth.
Cette rencontre entre les deux cousines qui va où la Vierge Marie va pouvoir vivre tranquillement sa grossesse.
Oui, c'est ça.
Elle
reste trois mois.
Voilà, et je pense qu'il y a un côté pratique. Et puis aussi, peut-être aussi se faire aider par une femme plus expérimentée.
Et à l'inverse, aider sa cousine qui était quand même plus âgée et qui avait certainement besoin d'un petit coup de main pour les tâches ménagères.
Voilà.
Ouais. Donc voilà, ça c'est ce lieu à Ein Carême, dans lequel il y a donc une église tenue par les franciscains. Il est déjà l'heure de se quitter. Frère Dominique Marie Gabaret, je vous remercie de nous avoir conduits à travers Nazareth et Ein Carême et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nous amener à Bethléem.
C'est gentil. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. ou par mail à contact@radioprésence.com.